France Inter.
Alexis Morel.
Bonjour Simon, bonjour à tous. La taxe lapin est-elle morte-née ? Info France Inter. La plateforme Doctolib ne veut pas enregistrer les coordonnées bancaires des patients lors d'une prise de rendez-vous. C'était pourtant l'idée du gouvernement pour appliquer la pénalité de 5 euros si l'on ne se présente pas chez le médecin. Les tarifs de l'électricité en chute libre sur les marchés. La tendance s'est complètement inversée, mais beaucoup de particuliers n'en voient pas encore les effets. On vous expliquera pourquoi. Au sommaire aussi, la grande réforme migratoire des 27 devant le Parlement européen. Jonathan Daval de retour au tribunal et au Petit Palais à Paris, les tableaux du premier peintre écolo français.
France Inter.
À peine annoncé, peut-être déjà enterré.
La taxe lapin pourrait, oui, ne jamais sortir de son terrier. Ce week-end, le Premier ministre a pourtant annoncé 5 euros de pénalité pour tout patient qui ne vient pas à un rendez-vous médical sans l'avoir annulé au moins 24 heures avant. Voilà pour le principe. Mais comment l'appliquer ? La piste au ministère de la Santé, c'est de demander une empreinte bancaire quand on prend rendez-vous sur une plateforme en ligne. Problème, la première d'entre elles, Doctolib, n'y est pas du tout favorable. C'est une info France Inter ce matin. Sa collaboration était pourtant essentielle, Victor Dolande.
Pour Doctolib, la lutte contre les rendez-vous non honorés est une priorité depuis sa création en 2013. Grâce à des questionnaires internes, la plateforme connaît même les trois causes précises de ces lapins. L'oubli, l'annulation, qui est impossible, ou l'incivilité. La taxe lapin Doctolib y est donc favorable, mais sur la forme, pas question de demander au patient son empreinte bancaire avant de prendre un rendez-vous. Stanislas Gnocchiato, cofondateur et PDG de Doctolib.
Il ne faut pas créer un fardeau administratif nouveau pour les soignants et entraver l'accès aux soins. Il y a 20% des patients qui sont en situation d'électronisme et 5% qui n'ont pas de carte bancaire. C'est impensable d'entraver l'accès aux soins pour eux.
Et pour les médecins qui ne sont pas sur les plateformes comme Doctolib, l'empreinte bancaire serait encore plus compliquée à mettre en place.
Comment vont faire les praticiens pour gérer la majorité des rendez-vous qui ne sont pas pris en ligne ? Comment vont faire les praticiens pour gérer les plaintes des patients, les contestations des patients ? C'est inimaginable d'envisager que les secrétariats ils vont enregistrer des cartes bancaires.
Pour le PDG de Doctolib, les médecins doivent garder la main impérativement sur cette taxe lapin pour savoir quel patient il faut sanctionner. Il pense aussi que c'est à l'assurance maladie de gérer cette taxe lapin en prélevant par exemple les 5 euros sur le rendez-vous suivant du patient.
Victor Dolande, les médecins qui vont suivre de près les évolutions du projet de loi fin de vie, présenté ce matin au Conseil des ministres, texte ô combien sensible qui prévoit une aide à mourir strictement encadrée pour certains patients, autrement dit une assistance au suicide. Le contenu du texte est à retrouver sur franceinter.fr. L'Assemblée s'en saisira le mois prochain, mais le processus parlementaire prendra ensuite au moins un an et demi. Quels sont les nouveaux objectifs du gouvernement en matière de finances publiques ? Le ministre de l'Économie doit dévoiler aujourd'hui la trajectoire de réduction du déficit pour revenir à 3% en 2027. D'habitude, ces annonces passent inaperçues. C'est tout l'inverse cette année. Après le dérapage des comptes publics, la droite en particulier attend l'exécutif au tournant. Dominique Seux nous en reparle juste après ce journal. Quant à nos finances, à nous particuliers, elles ont été plombées ces deux dernières années par les prix de l'électricité. Mais ces derniers mois, la tendance s'est largement inversée sur les marchés de gros où le mégawatt vaut à peine 1 euro cette semaine. A priori, c'est une très bonne nouvelle pour les consommateurs que nous sommes, mais ce n'est pas si simple, Delphine Simon.
C'est exactement l'inverse d'il y a deux ans. Le tarif régulé, le tarif bleu d'EDF n'arrête pas d'augmenter, plus 50% depuis 2022. Ce tarif fixé par les pouvoirs publics n'est recalculé qu'une fois tous les 6 mois. Il reflète les coûts d'approvisionnement d'il y a 2 ans, c'est-à-dire au plus fort de la crise des prix de l'énergie. A l'inverse, sur les marchés de gros, c'est la dégringolade. Lundi, le mégawattheure acheté d'un jour sur l'autre valait tout juste 1 euro contre 2 à 400 euros il y a 2 ans, selon le cabinet de conseil Omnegy. Le risque de pénurie est bien loin. Les centrales nucléaires tournent bien, les barrages hydroélectriques aussi. Il y a beaucoup de vent et de soleil. Résultat, les prix baissent et tous les fournisseurs proposent des contrats à prix fixe avec des tarifs très attractifs, moins 22% par rapport aux tarifs régulés, pointe le comparateur en ligne Elowatt. C'est le moment de faire jouer la concurrence en allant sur le site du médiateur de l'énergie. Et si vous craignez de quitter les tarifs bleu. Sachez que vous pourrez y retourner à tout moment, c'est sans frais.
7h34 sur Inter à Bruxelles, vote crucial pour une réforme discutée depuis 8 ans.
Ouais, et sur laquelle les 27 ont peiné à se mettre d'accord. Le pacte asile et immigration pour faire face au rebond des demandes d'asile et des entrées irrégulières dans l'Union. Bonjour Angélique Bouin.
Bonjour.
Correspondante d'Inter à Bruxelles. Alors que va changer cet ensemble de textes, Angélique ?
Eh bien, premier point, il oblige les pays de première entrée, comme l'Italie, l'Espagne ou la Grèce, à traiter toutes les demandes d'asile. Ils ne pourront plus laisser passer de candidats à l'exil sans les enregistrer. Identité, photo, prise d'empreinte, tout sera consigné dans une base de données européenne. Deuxième élément, les migrants seront filtrés. Ceux dont on considère qu'ils ont moins de 20% de chances de répondre aux critères pour obtenir l'asile ne pourront plus s'éparpiller en Europe pendant l'instruction de leur dossier. Ils seront retenus dans des centres près des frontières. Leur demande sera traitée en accéléré pour un retour plus rapide. Les familles avec enfants sont concernées, mais pas les mineurs isolés. Les autres, les Syriens par exemple, éligibles à l'asile car issus d'un pays en guerre, suivront la procédure habituelle.
Donc plus de contraintes pour les pays d'accueil déjà débordés, en échange de quoi ?
Eh bien d'un mécanisme obligatoire de solidarité entre les 27. En cas de pression migratoire, au moins 30 000 demandeurs d'asile devront être relocalisés dans les autres États membres. Et si certains s'y opposent, la Hongrie a déjà dit miette, eh bien ils devront participer financièrement à l'accueil en versant, c'est l'une des options, 20 000 euros par an pour chaque demandeur d'asile refusé.
Alors est-ce qu'on sait, Angélique, quand cette réforme entrera vraiment en vigueur ?
Oui, une fois adopté, le texte fera l'objet d'une validation par les États, ce qui devrait être une formalité. Ensuite, les pays ont 2 ans pour s'organiser, ouvrir 30 000 lits nouveaux dans les centres d'accueil. Et ensuite, tout dépendra bien sûr de la mise en œuvre effective de cette réforme par les États.
Angélique Boin, l'Europe sur Inter. Merci Angélique. Joe Biden ose désormais l'opposition frontale à Benjamin Netanyahou. La stratégie israélienne à Gaza est, selon le président américain, une erreur. Je ne suis pas d'accord avec cette approche, ajoute Biden, alors que le premier ministre de l'État hébreu se dit, lui, déterminé à conduire une offensive sur Rafah.
En France, les grandes marées ont fait 2 morts dans la Manche.
Une femme et un homme de 73 ans, tous les deux, pêcheurs à pied, pris au piège par la remontée des eaux hier, eaux conjuguées aux effets de la tempête Pierrick. Lui purge 25 ans de prison pour le meurtre de son épouse Alexia. Jonathan Daval est de retour aujourd'hui devant un tribunal jugé à Besançon pour dénonciation calomnieuse contre sa belle-famille. Il lui est reproché, David DiGiacomo, d'avoir accusé son beau-frère de ce meurtre.
C'est dans le cabinet de la juge d'instruction en juin 2018 que Jonathan Daval, après avoir joué le rôle du veuf éploré, change une nouvelle fois de version. Il assure que sa femme Alexia a fait une crise d'hystérie lors d'une soirée en famille et que son beau-frère l'a étranglé. Une mise en cause insupportable pour Grégory Gay, qui demande aujourd'hui réparation.
Il a mis en cause les innocents, nous. Dans le dossier, à aucun moment il était envisageable qu'on puisse être impliqué. Évidemment, c'était dur moralement. Se retrouver mis en cause dans une affaire de meurtre, c'est complètement fou et c'est inacceptable.
La famille d'Alexia réclame au total 60 000 euros de dommages et intérêts, des montants exorbitants aux yeux de Randall Schwerdorfer, l'avocat de Jonathan Daval.
Là, on s'est dit, tiens, on peut obtenir de l'argent. Tout ce que je souhaite, c'est que Jonathan Daval puisse s'expliquer et représenter de nouveau ses excuses en espérant que ce soit... le dernier épisode judiciaire de l'affaire Daval.
Cet après-midi, devant le tribunal correctionnel de Besançon, Jonathan Daval et la famille d'Alexia seront à nouveau face à face, 3 ans et demi après sa condamnation pour meurtre.
Dispositif de sécurité nettement renforcé ce soir autour du Parc des Princes pour le match de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et le Barça. Après les menaces du groupe État islamique contre plusieurs quarts de finale, c'était le cas aussi hier soir à Madrid où le Real affrontait Manchester City. Mais finalement, Marie-Hélène Balestero, vous êtes sur place, rien à signaler.
Comme à chaque match de Ligue des Champions, les abords du stade Santiago Bernabéu ne désemplissent pas malgré les menaces proférées par l'État islamique. Maria tient un food truck juste en face du stade, rien à signaler de son côté.
L'ambiance est normale, comme si rien ne s'était passé. Quand les gens viennent au match, ils oublient tout et ne pensent qu'au foot. Moi, ça m'a pris la tête pendant 5 minutes, mais après je me suis habillée, je suis sortie de chez moi et je suis venue travailler. C'est comme ça, un point c'est tout.
Encadré par un fort dispositif de sécurité, les supporters merengues profitent de la soirée de foot, comme d'habitude. Adrian ne s'est pas posé de questions.
J'étais sûr de venir à 100%, je n'y croyais pas franchement. C'est vrai que beaucoup de potes ont refusé de venir parce qu'ils avaient peur qu'il se passe quelque chose. Moi j'étais persuadé du contraire. En plus, il y a beaucoup de sécurité. Je viens tout le temps ici, c'est vrai que j'ai vu beaucoup plus de fourgons de la police nationale.
En tout, plus de 2000 agents sont mobilisés à Madrid. Sylvia se sent rassurée, même si elle a failli rester chez elle.
J'ai hésité à venir parce que mes parents m'ont averti qu'il y avait une menace terroriste et que je devais faire attention. Ça m'a fait un peu peur, mais à la fin, mes amis m'ont convaincu et je suis venue.
Paris relevé hier par les forces de l'ordre au stade Santiago Bernabéu. Ce soir, elles seront déployées au Metropolitano pour le match Atlético de Madrid-Borussia Dortmund.
Et sur le plan purement sportif, match spectaculaire entre le Real et City, mais score nul, 3 partout, 2 partout entre Arsenal et le Bayern.
Et puis vous nous proposez, Alexis, une balade en forêt en plein Paris.
Oui, grâce au tableau de Théodore Rousseau. À ne pas confondre, Simon, avec le douanier du même nom, Le Petit Palais consacre une grande exposition à cet artiste pré-impressionniste qui a peint les arbres et les forêts comme personne. On peut même dire, Isabelle Pasquier, qu'il a été le premier peintre écolo.
Théodore Rousseau est le premier artiste à oser des portraits d'arbres, ce qui lui vaut d'être moqué et rejeté par les salons académiques. Mais pour lui, la nature n'est pas un simple décor pour scènes mythologiques. C'est son écosystème, son refuge. Alors dans les forêts, avec une touche libre, il réussit à capter le mystère du vivant. Une révolution artistique dans la représentation du paysage, menacée par la révolution industrielle. Annick Lemoine, directrice du Petit Palais.
Ce qui est aussi révolutionnaire, c'est la façon dont il l'a peint. Il ne va pas se placer en surplomb. Il va peindre à l'intérieur de la forêt, au niveau des mousses. Il peint des véritables portraits d'arbres. Et il disait du reste qu'il entendait la voix des arbres.
Alors, pose contemplative, il faut se laisser traverser par les vibrations de ces arbres. Les impressionnistes sont fascinés par Rousseau, qui est vraiment le premier peintre écologiste.
C'est son combat. Il va être le témoin d'une destruction de la forêt de Fontainebleau. Et il est absolument bouleversé, malheureux, de ces spectacles terrifiants et il va peindre un tableau manifeste, le massacre des innocents.
Lanceur d'alerte, Théodore Rousseau va écrire au Premier ministre pour empêcher l'abattage d'arbres séculaires dans la forêt de Fontainebleau. Gagné, le gouvernement y créera la première réserve naturelle au monde, 10 ans avant Yellowstone aux États-Unis.
Théodore Rousseau, la voix des arbres jusqu'au 7 juillet au Petit Palais. Toujours à Paris, le défi d'une vie que va tenter aujourd'hui Anouk Garnier. Cet athlète de 35 ans veut battre le record du monde de grimper à la corde en montant 110 mètres le long de la Tour Eiffel, soit jusqu'au 2e étage du monument. Ambitieux, quand on sait qu'il y a 2 ans à peine, elle n'atteignait pas 5 mètres, ce qui vous laisse de l'espoir. Si vous êtes à 2 mètres à peu près.
Très très mauvais souvenir du monter à la corde à l'école primaire ou au collège. Merci de me les rappeler. Alexis Morel, merci beaucoup. 7h42 à suivre l'édito politique et Elle Gauze, l'économie Dominique Seux et Alexis Michalik avec Alexandra Ben Saïd.